Un journal présenté ce soir par Benoît Bousquerel. Bonsoir Benoît.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à toutes et à tous. Quel signe réel ou simplement craint d'une résurgence de l'épidémie de Covid-19 en France et comment prévenir un éventuel retour du coronavirus? Nous irons à Bordeaux et à Marseille dans ce journal, voir comment s'organise désormais la bataille contre le virus.
Des groupes de hackers russes ont-ils tenté de déstabiliser le Royaume-Uni? L'accusation a été lancée aujourd'hui par Londres, qui pense avoir été la cible d'une tentative de manipulation des élections de l'an dernier et qui annonce que des Russes cherchent à voler le travail de chercheurs britanniques sur un vaccin contre le coronavirus.
Et Moscou dément. Nous reviendrons également sur ce rapport de la Cour des comptes dans ce journal. Rapport qui juge les sommes engagées en France depuis 5 ans en matière de lutte contre le terrorisme plutôt bien employées.
Comment lutter contre une possible résurgence de l'épidémie de Covid-19?
Alors que quelques signaux faibles, comme les appelle Olivier Véran, le ministre de la Santé, sont perceptibles depuis plusieurs jours en France et notamment dans les hôpitaux parisiens. Quelle stratégie désormais pour éviter à tout prix une flambée des cas et un reconfinement généralisé? Écoutez ce témoignage dans la région de Bordeaux de Louis Maisonnab, médecin généraliste à Parentis-en-Born. C'est à 75 km de Bordeaux. Parentis-en-Born, où un cluster a été détecté ces derniers jours.
À partir de fin juin, il y a eu un cas hospitalisé qui a donné lieu à une enquête de contact tracing par la cellule dédiée départementale et qui ont mis en évidence effectivement 16 autres personnes porteuses du coronavirus. Le contact tracing, ça consiste à déterminer et enquêter pour trouver les personnes contact avec des contacts suffisants pour être éventuellement contaminants. On n'a pas vu d'augmentation dans la population autochtone, entre guillemets, de Parentis-en-Born de cas de coronavirus. Un dépistage de la population générale sur la base du volontariat a été ouvert pour rassurer les gens et jusqu'à maintenant, il rassure bien puisqu'il n'y a absolument personne de positif sur la commune. On est en train de mettre en place la stratégie qui a fait ses preuves en fait en Allemagne et par exemple en Corée du Sud, de chercher des cas, donc d'en trouver. Et quand on en trouve, de les circonscrire en menant l'enquête autour d'eux. Donc c'est un peu le succès de la multiplication des tests et de l'accès aux tests qui est possible et qui fonctionne pas trop mal vers chez nous.
Des propos recueillis par Wafia Kenich. Le décret rendant obligatoire le port du masque en France dans tous les établissements recevant du public est clos, en particulier les commerces, entrera en vigueur la semaine prochaine, a annoncé ce matin le Premier ministre devant le Sénat. C'est plus rapide que ce qui avait été préalablement annoncé par le chef de l'État mardi. Signe que les autorités prennent la menace d'un retour de l'épidémie très au sérieux. Tout comme la population d'ailleurs par endroit. À Marseille par exemple, des files d'attente pour un dépistage ont réapparu devant l'IHU, l'Institut Hospitalo-Universitaire, l'hôpital de la Timone. Reportage de Mathilde Vinceneux.
Sur le trottoir, devant l'entrée de l'IHU, une petite foule masquée patiente.
Bonjour monsieur, vous avez des symptômes ou pas?
Un petit rhume, rien de grave, mais bon.
Ce sont des marins-pompiers en blouse blanche qui gèrent l'accueil. Julie est venue se faire dépister en famille.
On est trois, mon mari, moi et ma fille de 8 ans et demi. Donc on est venu un peu en urgence ce matin parce que mon mari est opticien et un de ses clients l'a contacté pour dire qu'il avait été testé positif au coronavirus ce matin. Donc comme on part en vacances dans 2 jours dans la famille, on n'a pas envie d'éventuellement contaminer les gens.
Certains ont peur pour leurs proches, donc d'autres sont obligés de se faire dépister avant de partir. Gilbert doit embarquer pour la Corse.
Il vient de nous envoyer un mail pour les résultats du Covid-19 pour partir demain matin.
Les départs en vacances, c'est bien ce qui explique l'affluence à l'IHU selon le professeur Mathieu Millon, responsable de l'unité de prise en charge Covid.
On assiste en fait à quelque chose d'un petit peu nouveau avec des cas importés, des cas associés au voyage en tout cas, alors qu'on avait environ 1 à 2 nouveaux cas positifs par jour fin juin, début juillet. On est plus près actuellement de la 20aine de nouveaux cas positifs par jour.
Les équipes de l'IHU suivent donc de très près l'évolution de la courbe pour adapter l'accueil et permettre le plus de tests possibles.
Mathilde Vinceneux à Marseille. Le département de la Mayenne a été classé depuis hier en situation de vulnérabilité élevée. Le port du masque dans les lieux publics dans ce département de la Mayenne est dès à présent obligatoire. Toujours sur le front du coronavirus, mais à l'étranger cette fois, aux États-Unis. La situation est bien plus préoccupante en raison notamment de l'absence de réponse sérieuse à l'épidémie au plus haut niveau. Nouveau record de contamination hier avec près de 68 000 cas détectés sur l'ensemble du pays. Depuis le mois dernier, le sud et l'ouest des États-Unis connaissent une forte résurgence du virus, en particulier dans les États qui avaient été les premiers à vouloir relancer leur économie. Loïc Loury.
151 000 morts le 1er août, 157 000 7 jours plus tard. Les dernières projections épidémiologiques américaines annoncent le pire pour les semaines à venir. Et ce ne sont pas les plus pessimistes. Hier, plusieurs États du Sud ont enregistré des records de contamination. Plus de 10 000 nouveaux cas, en particulier au Texas. La Floride, sans doute désormais épicentre de cette crise sanitaire, atteint les 300 000 cas. L'État de Washington, premier point chaud de l'épidémie outre-Atlantique, avait lui contenu le virus. Les voyants, 6 mois plus tard, sont à nouveau au rouge. Partout, des gouverneurs referment bars et restaurants, en Californie notamment il y a quelques jours, ou rendent le masque obligatoire, parfois à reculons malgré tout, comme en Alabama. Face à cette débâcle et à ces initiatives, surtout en ordre dispersé, le fameux docteur Fauci, spécialiste en maladies infectieuses, a exprimé hier sa perplexité. Il faut, regrette-t-il, presque tout reprendre à zéro. Initiative encourageante, la décision du géant Walmart d'imposer le masque dans ses 5000 magasins. Donald Trump, lui, est apparu masqué le week-end dernier pour la toute première fois depuis le début de l'épidémie.
À New York, Loïc Loury.
Le gouvernement britannique montre du doigt la Russie dans des affaires de piratage de données informatique.
D'abord en lien avec les élections de décembre 2019 que, selon Londres, des acteurs russes auraient cherché à perturber, notamment en faisant circuler des documents sur les négociations commerciales en cours entre Londres et Washington. Ensuite, en lien avec la recherche scientifique sur un possible vaccin contre le coronavirus. Explication à Londres de Laura Calmus.
Trouver un vaccin contre le coronavirus, c'est devenu la priorité des laboratoires de recherche à travers le monde. Mais malgré leur vigilance, une cyberattaque destinée à voler les recherches sur le vaccin serait en cours au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Canada. La menace viendrait d'un groupe de hackers connus sous plusieurs noms, notamment The Duke et Cozy Bear, et selon l'organisation gouvernementale britannique chargée de la sécurité, ce groupe travaillerait pour les renseignements russes. Il n'a pas été confirmé pour le moment si les hackers sont parvenus à voler des informations importantes. Parallèlement à cette affaire, le gouvernement britannique accuse également la Russie d'avoir cherché à perturber les dernières élections de 2019. Très vite, le Kremlin a répondu à ces deux accusations, affirmant qu'il n'était absolument pas responsable de ces attaques et que Londres n'avait apporté aucune preuve allant dans ce sens.
Laura Calmus, Washington se dit ce soir profondément déçu par la décision de la justice européenne permettant de protéger les données personnelles des citoyens européens. Le secrétaire américain au commerce se désole ce soir de l'annulation de ce qu'on appelle le Privacy Shield. Ce n'est évidemment pas le cas des associations de protection des données personnelles de ce côté de l'Atlantique. Et côté Noémie Levin, elle est avocate et membre de la Quadrature du Net.
On dénonçait le cadre américain qui avait été jugé comme acceptable à des garanties suffisantes pour la Commission européenne, alors que c'est flagrant et dénoncé depuis plusieurs années qu'il y a des mesures de surveillance qui sont mises en place au sein du territoire des États-Unis et que dès lors que les données personnelles des citoyens européens étaient transférées sur ce territoire, il n'y avait absolument aucune protection offerte aux citoyens de l'Union européenne. Donc pour nous, c'est une victoire. La Cour reconnaît que les exigences en matière de vie privée et de données personnelles sont importantes au sein de l'Union européenne et que c'est aux États-Unis de s'adapter et de changer leur cadre légal. Mais c'est sûr que le Privacy Shield, c'est un des outils juridiques qui est possible pour opérer un transfert hors de l'Union européenne. Mais à côté, il y a les clauses contractuelles types, il y a les accords d'entreprise, il y a d'autres solutions. Donc ça ne va pas être l'arrêt d'Internet aujourd'hui, mais on va dire que ça permet de rappeler que nous, au sein de l'Union européenne, on veut rehausser les exigences en matière de vie privée.
Noémie Levin, avocate et membre de l'association La Quadrature du Net, au micro de Benoît Grossin.
En France, plus de 9 milliards d'euros ont été mobilisés contre le terrorisme en l'espace de seulement 4 ans, c'est-à-dire entre 2015 et 2019.
Des dépenses qui viennent de faire l'objet d'une enquête de la Cour des comptes et donc d'un rapport remis hier à la Commission des finances de l'Assemblée nationale. La Cour souligne que cet effort budgétaire considérable a débouché sur un dispositif législatif et réglementaire solide et complet, ce sont ses termes, avec toutefois, Florence Turm, quelques difficultés ou interrogations sur la question du suivi des détenus radicalisés.
Les crédits mobilisés pour le ministère des Armées sont de loin les plus importants, 7 milliards 800 millions dédiés à l'achat de nouveaux équipements et au recrutement de 7000 militaires supplémentaires, 3300 emplois créés au sein de la police et de la gendarmerie, notamment dans les unités spécialisées RAID et GIGN. Mais qui dit recrutement massif dit aussi hausse de la masse salariale et cela va continuer à peser sur les budgets des ministères concernés, prévient la Cour, tout en saluant l'efficacité des moyens engagés. Les opérations militaires extérieures, Barkhane au Sahel, Chamal au Levant, ont privé Daesh de sa base géographique. En France, l'opération Sentinelle a contribué à la sécurité publique, mais elle doit encore davantage s'adapter à l'intensité de la menace terroriste, souligne le rapport. Le ministère de la Justice a quant à lui bénéficié de 570 millions d'euros, mais la Cour regrette qu'ils aient été largement sous-exécutés ou employés à d'autres missions. Un bon point, certes, pour la création du parquet national antiterroriste, mais le rapport pointe les hésitations de l'administration pénitentiaire. Faut-il regrouper ou disperser les détenus radicalisés? La stratégie actuelle repose sur une solution mixte avec évaluation à la clé, stratégie qui n'a pas encore elle-même fait l'objet d'une évaluation, alors que se profile une autre inquiétude, l'éventuel retour des centaines de femmes détenues dans la zone irako-syrienne. Il n'existe pas de quartier d'évaluation pour elles et très peu de places en isolement. Quant aux mineurs dont l'État français traite le rapatriement au cas par cas, la Cour s'inquiète des capacités de placement insuffisantes selon elle dans les familles d'accueil.
Florence Sturm. Un sommet européen important mais incertain à partir de demain à Bruxelles en matière de relance économique. L'enjeu sera notamment de savoir comment utiliser les 750 milliards d'euros mis sur la table récemment par la Commission européenne pour aider à relancer l'économie. L'OFCE, sur ce point, vient de proposer son avis, décrypté par Marie Viennot.
Alors que le projet qui sera discuté demain part sur un plan à 750 milliards, dont 250 de prêts, les économistes de l'OFCE proposent, eux, 2000 milliards étalés sur 10 ans. Sur ces 2000 milliards, on en garderait 500 pour des dotations directes aux États qui en ont le plus besoin suite à la pandémie et on en consacrerait 1500 à des projets européens plus structurels. Ces projets peuvent être déjà à l'agenda européen, mais ils sont, selon les chercheurs de l'OFCE, sous-dotés. Il y a d'abord la construction d'un réseau ferroviaire à grande vitesse avec 4 lignes allant de Lisbonne à Helsinki, Berlin-Nicosie, Paris-Dublin et Bruxelles à Malte. Ce serait un projet sur 20 ou 30 ans. Deuxième grand projet pour l'énergie. Soutien aux batteries hydrogène, ça la Commission en parle déjà, mais il faudrait aussi accélérer la réalisation d'un réseau électrique intelligent et intégré pour la transmission d'énergie renouvelable. Une partie de ces 1500 milliards devrait également aller au cofinancement des politiques de décarbonation des économies des États membres. Et enfin, dernier projet, la création d'une seule agence européenne de santé. Elle remplacerait les deux existantes et veillerait aussi bien à l'approvisionnement en médicaments essentiels qu'à la mobilité et la formation du personnel. Les deux agences existantes sont dotées de 400 millions d'euros par an. C'est 20 milliards par an qui seraient nécessaires, assurent les chercheurs, qui savent que demain, le Conseil européen ne rentrera pas dans tous ces détails car il faut déjà obtenir l'accord politique sur le montant du fonds de relance et sa gouvernance.
Marie Viennot, 3 condamnations à mort sont en suspens actuellement en Iran sous la pression internationale et sous la pression de la diaspora iranienne à travers le monde. Un tribunal dit révolutionnaire iranien avait condamné récemment ces 3 jeunes hommes âgés de 26 à 28 ans en les reconnaissant coupables d'avoir mené les manifestations de novembre dernier ou d'avoir fait partie des meneurs. Bonsoir Nabila Hamel.
Bonsoir.
Alors rien n'est encore officiel mais des informations en provenance d'Iran affirment que leur condamnation pourrait avoir sauté et que le procès de ces 3 jeunes hommes pourrait être révisé.
Rien d'officiel. Il faudra en effet attendre dans les prochaines heures ou les prochains jours la décision du chef de l'autorité judiciaire. C'est ce que nous disait cet après-midi Karim Laïdji, président de la Ligue iranienne des droits de l'homme et président d'honneur de la FIDH.
Pour le moment, tant que cette demande est devant le chef du pouvoir judiciaire, on ne peut pas appliquer la peine annoncée. Par conséquent, déjà, il y a une suspension de fait.
Et si la sentence est suspendue de fait pour ces 3 jeunes, les exécutions se sont multipliées ces derniers jours en Iran, celle d'un habitant de Mashhad pour consommation d'alcool, celle de 2 Kurdes iraniens et celle d'un ancien cadre du ministère de la Défense accusé d'espionnage au profit des États-Unis, un mauvais signe lancé par Téhéran en direction de la population. Karim Laïdji.
ça signifie encore une vague de répression pour dire que si, comme en novembre 2019, les gens se révoltent, le prix à payer est très très cher. La situation iranienne est explosive. La cherté de la vie, la corruption, la crise sanitaire, tous les jours il y a pas mal quand même d'événements qui inquiètent vraiment les autorités iraniennes. Et dans ce contexte, ils pensent que c'est pas le moment pour qu'il y ait encore des révoltes comme l'année dernière.
Les émeutes de novembre 2019 dans plusieurs villes d'Iran auraient fait plus de 1000 morts, selon un groupe d'experts indépendants travaillant pour le commissariat de l'ONU pour les droits de l'homme. Les autorités iraniennes s'en tiennent pour leur part au chiffre de 230 personnes tuées.
Merci Nabila Hamel. Un temps clément et sec demain en France. Alternance d'éclaircies et de passages nuageux sans conséquence sur l'ensemble du pays. Au fil des heures, les températures resteront stables de 20 à 30 degrés au meilleur de la journée.